France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Magali Reguezazit ce soir. Elle est géographe de l'environnement, spécialiste des risques naturels, de la prévention des catastrophes, de la résilience et de l'adaptation des territoires. Autant de sujets qui peuvent paraître abstraits mais qui ne le sont pas du tout. Pour preuve, la sécheresse qui sévit actuellement, inhabituelle en cette saison, elle pose de multiples problèmes. Premier concerné, les agriculteurs.
Le blé commence à fleurir, donc c'est là où il a vraiment besoin d'eau. Si on est obligé d'arrêter d'irriguer maintenant, on va perdre 40% de la récolte, c'est sûr.
Et les agriculteurs ne sont pas les seuls touchés par la sécheresse. Loin de là, les conséquences sont multiples. On en parlera avec celle qui est membre du Haut Conseil pour le Climat. On ira aussi à Stockholm, en Suède, où la planification écologique promise par Emmanuel Macron est déjà une réalité.
On veut sauver le monde. Les Suédois sont de bonnes personnes. On a Greta.
Have you heard of Greta?
Un reportage de Benjamin Illy à suivre. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, la chronique de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1. Ce soir, la drôle de campagne du RN pour les législatives, comme si l'extrême droite avait disparu. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h, le téléphone sonne. Alors qu'on attend toujours le nom du nouveau locataire de Matignon, question justement sur la planification écologique promise. À quoi pourrait-elle ressembler? Quels seraient les domaines concernés? Croyez-vous à un quinquennat vert? On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à Ludovic Asselot, Arnaud Caillé et Fabrice Desmaz qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Magali Reguezazit.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous alors qu'on attend effectivement de savoir qui sera chargé de piloter la politique du pays pour ce quinquennat qui sera écologique ou qui ne sera pas, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Alors il nous a paru intéressant de vous entendre ce soir puisque vous voyez la société de manière globale vis-à-vis des risques naturels liés au changement climatique. Vous allez nous dire quelles devraient être selon vous les priorités de ce gouvernement qu'on attend en la matière. Mais peut-être d'abord un mot de la situation qu'on connaît actuellement. On vient d'entendre le bulletin météo d'Élodie Calac, ces températures pour un mois de mai beaucoup trop élevées. On sait bien qu'il ne faut pas confondre météo et climat, mais franchement, plus de 30 degrés là cette semaine, clairement, ça a un lien avec le changement climatique.
Alors, à chaque fois, on le dit, on ne peut pas évidemment dire que cet événement-là est lié. Enfin, ce qu'on sait, c'est que ces événements-là, ils vont se multiplier, que des événements qui étaient très rares il y a encore un siècle, aujourd'hui le sont moins, et qu'avec les tendances qu'on connaît aujourd'hui, ces extrêmes chauds, secs et humides vont soit gagner en intensité, soit gagner en fréquence. Ils vont être plus tôt dans l'année. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, avec le changement climatique et les trajectoires actuelles qui sont déjà enclenchées, hein, le changement climatique, c'est maintenant, on y est déjà dedans, ça y est, on va devoir vivre avec. Alors, ça va être plus ou moins embêtant. En gros, on aura des hivers beaucoup plus doux, des printemps plus précoces. Et on a déjà vu, hein, aujourd'hui, les agriculteurs, les viticulteurs le voient, vous savez, c'est ces bourgeons qui sont précoces et qui prennent le coup de gel. Et puis, on va avoir des étés beaucoup plus longs. Beaucoup plus long, beaucoup plus chaud, beaucoup plus intense. Les prévisions qu'on avait faites avec le HCC l'année dernière et Météo France disaient...
Le HCC, c'est le Haut Conseil pour le Climat.
Le Haut Conseil pour le Climat, oui, excusez-moi. On était sur... actuellement, par exemple, à Paris, on est à 7 jours en moyenne par an de canicule. On serait à horizon 2030-2035 sur un scénario vraiment pas exceptionnel hein, de changement climatique, sur vraiment un scénario moyen, si on respecte nos engagements, on serait à 23 jours en moyenne par an. À Lyon, à Grenoble, à Strasbourg, on arrive au-delà de 30 jours, c'est-à-dire un mois de vague de chaleur par an. Et puis on a effectivement ces épisodes de sécheresse qui là sont terribles. Et là on est en train de le voir en ce moment.
Absolument, et on le voit dans des régions où on n'imaginait pas le voir au mois de mai. On va voir ça avec ce reportage de Maria Melcurdi. Elle s'est rendue dans le Loiret, département, placé en vigilance. Il y en a à peu près une quinzaine aujourd'hui.
Sébastien Méry observe son champ de céréales avec un œil inquiet. Une parcelle de 20 hectares de blé asséché à Chevannes, dans le nord-est du Loiret.
Ce brin-là est mort, il aurait dû donner un épi.
Parce qu'il est marron ?
Parce qu'il est marron, oui. On sent qu'il est tout desséché, tout flasque. Et donc, sur 6 brins, on va finir aujourd'hui avec 3 brins, voire moins, si le phénomène s'accentue.
Le dernier épisode de pluie remonte à plus d'un mois et la chaleur est pesante.
Sous l'effet de la chaleur, là, on voit les feuilles qui s'enroulent. La plante se met en stress. On ne devrait pas non plus avoir ces feuilles jaunes et ces brins qui meurent. Et on devrait avoir un blé beaucoup plus fourni dans la parcelle.
L'absence de pluie devrait durer encore au moins 2 semaines. La récolte prévue pour juillet risque d'être fortement réduite.
Quel que soit le temps à venir, on ne rattrapera pas les dégâts, c'est sûr.
Arnaud Gilbert est lui aussi impacté. Il est céréalier à Soupe-sur-Loing. Il s'inquiète aussi de ses réserves d'eau qui diminuent. Il a le droit d'irriguer les sols, mais dans une quantité limitée.
Le blé commence à fleurir, à épier, je veux dire. Donc c'est là où il a vraiment besoin d'eau. Et si on n'a pas d'eau dans les 15 jours, on ne va pas pouvoir arroser une deuxième fois, c'est sûr. Si on est obligé d'arrêter d'irriguer maintenant, on va perdre 30 à 40% au moins. 40% de la récolte, c'est sûr.
Et pour la FNSEA, en cas de mauvaise récolte des céréales en France, il risque d'y avoir une flambée encore plus forte des prix alimentaires.
Et oui, parce que ça tombe au très mauvais moment, tout ça, en plus avec la crise en Ukraine. Magali Regazazit, est-ce qu'il va falloir qu'on revoie notre production agricole ?
Oui, et pas que. Il va falloir qu'on revoie notre production agricole, il va falloir qu'on revoie nos modes de consommation, il va falloir qu'on revoie nos modes de transport. En fait, il va falloir tout revoir. On est au début d'une grande révolution pour laquelle on a une chance unique, c'est que on peut choisir. On a encore le choix. C'est exactement ce que nous disent les scientifiques. Il est tout à fait possible. Il y a des solutions, d'abord, il faut le dire. Il y a vraiment des solutions qui marchent et qui nous permettent d'éviter vraiment le pire, voire d'aller mieux.
Mais quand le GIEC, parce qu'on a entendu dire on a 3 ans, c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas pour
pas
le GIEC ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. D'abord, il sera jamais trop tard. Hein. Si vous avez fumé toute votre vie, c'est pas pour ça qu'il faut ne pas arrêter de fumer en vous disant tant pis. Non, ça marche pas comme ça. Ce que nous dit le GIEC, c'est... Alors le GIEC, peut-être juste pour le rappeler, parce que c'est important, ce sont des scientifiques.
Le groupe intergouvernemental.
Exactement. D'abord, ce sont des États. Et dans ces états, il y a des scientifiques qui regardent tout ce qui a été écrit par la science sur les 10 dernières années. Donc c'est vraiment des choses qui sont établies en science, c'est pas un grand laboratoire de recherche le GIEC, hein. C'est vraiment des scientifiques.
C'est tout le monde.
C'est tout le monde.
Et d'ailleurs c'est l'ONU. Hein.
Ce sont des états.
Le secrétaire général de l'ONU vient rappeler les...
Qui est un dangereux extrémiste et qui a dit qu'il fallait qu'on change. Hein. Voilà. En gros, ce que nous dit le GIEC, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, on est là dans un moment de très très important, parce qu'en fait aujourd'hui on est en train de continuer à augmenter nos émissions, on les a baissées mais pas assez vite. Or on a besoin non seulement d'arrêter qu'elles augmentent, de les faire descendre pour arriver à horizon en gros 2050 à ce qu'on appelle le zéro net émission, c'est-à-dire qu'en gros ce qu'on va émettre, parce qu'on va quand même devoir encore un petit peu émettre, il faut qu'on le recapte. Et le seul problème avec ça, c'est que plus on tarde, plus c'est difficile. Et à un moment, c'est tellement difficile. Vous savez, c'est comme quand on fait les régimes au moment des fêtes de Noël, vous savez. Il y a un moment où si on continue, on continue, on continue, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et donc nous, en fait, on va devoir apprendre à vivre différemment, mais avec cette idée, et le GIEC a sorti quelque chose quand même d'unique, je tiens à le dire, parce que le GIEC, ce sont des États. Ça veut dire que les États ont accepté qu'on inscrive dans un résumé le mot sobriété. Et sobriété, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce mot fait peur à certains.
Ce mot fait peur, alors que, pour les auditeurs peut-être qui connaissent, alors je vais faire un peu pédant, mais c'était la tempérance des Grecs. Ça effraie personne, la tempérance des Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, en consommant différemment, on va pouvoir mieux vivre. La sobriété, qu'est-ce que c'est ? C'est continuer notre développement humain, avoir plus de bien-être, mais dans les limites de la planète, parce qu'à un moment, ça marche plus. Parce qu'à un moment, ça tient pas. Parce qu'à un moment, comme vous dit l'agriculteur, quand il y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Et donc, on a des tas de solutions, un peu techniques, du comportement, tout ça. Ça va pas suffire. Parce qu'en fait, ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, c'est on colle des rustines. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des transformations profondes avec des tas de ce qu'on appelle des co-bénéfices. Juste un exemple, manger différemment, ça veut dire qu'on va avoir une meilleure santé. Ça veut dire que la sécurité sociale va mieux se porter. Ça veut dire que l'hôpital va mieux se porter. Ça veut dire que quand on aura des épidémies de Covid, les gens qui sont diabétiques, qui ont été très très impactés, souvent ce diabète est aujourd'hui lié à la malnutrition, on l'a beaucoup vu aux États-Unis par exemple, ça on va pouvoir le réduire. On va avoir une meilleure vie parce qu'on a des études qui montrent que quand vous vivez dans un univers avec de la biodiversité, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'espérance de vie augmente. On va pouvoir réduire le mal logement, on va pouvoir réduire la pollution atmosphérique, parce que c'est quand même pas très agréable.
Donc il faut avoir un message positif, c'est ce que vous nous dites, parce que de toute façon c'est le cas.
Je ne suis pas chez les bisounours, hein. On est d'accord. Ce que dit le GIEC, c'est qu'on peut le faire, et que si dans 3 ans on ne l'aura pas fait, il faudra attendre 4 ans, 5 ans, et qu'on pourra toujours agir, mais que plus on va pousser le curseur, plus ça va être dur, et plus évidemment les conséquences, ça va être terrible pour de plus en plus de monde.
Un petit mot concernant la France par rapport aux objectifs. Vous nous avez dit on a commencé quand même à réduire la hausse, si j'ai bien compris, globalement des gaz à effet de serre. Qu'en est-il de la France ? Est-ce qu'on a...
Alors on monte moins vite. Mais
moins
on
vite qu'avant.
On monte moins vite qu'avant, on ralentit, mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'il fallait. Et surtout, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un sujet qui est important, c'est qu'on vit déjà dans un climat qui change. Les agriculteurs en sont la preuve, mais il y a plein d'autres domaines qui sont concernés. Ça veut dire qu'il va falloir aussi vivre en s'adaptant. Et donc, pour l'instant, on a réfléchi en termes de réduction des émissions. Il faut aussi qu'on travaille en termes de réduction des impacts. Et tout ça avec ce qu'on appelle des coûts de transition. C'est un peu le paradoxe, c'est que les personnes qui sont les premières victimes du changement climatique, elles vont aussi être les premières victimes des politiques de transition. Et donc le sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour répartir l'effort justement, pour que ça soit le plus juste possible.
Sans accentuer les inégalités.
Sans accentuer les inégalités, parce que si vous voulez, c'est un peu... Vous vous souvenez de la chanson quand on était petit, chapeau de paille, bout de ficelle, marabout, bout de ficelle. Vous savez, ces effets dominos, mais c'est ce qu'ils disent en fait. Les inégalités, elles vous rendent plus fragiles par rapport au changement climatique. Le changement climatique, il augmente les inégalités, qui augmente votre vulnérabilité au changement climatique, et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux. La planification, elle va avoir pour objectif d'engager un cercle vertueux. Et de faire en sorte qu'au contraire, cette transition, elle bénéficie à tous. Et là, ça pose des questions énormes de répartition, de compensation, de qui paye. Peut-être qu'on pense qu'il est juste que un tel paye, et puis finalement on va se dire que ah, ben non, ça marche pas. Il y a plein d'effets en chaîne, c'est ce que nous dit aussi le GIEC. On a des risques composites avec des effets dominos qui fait que peut-être une idée, on va se dire, ah bah tiens, ça c'est super de faire ça. On va pouvoir, ah zut, c'est une maladaptation. Ah bah tiens, là je vais mettre un investissement, et ben cet investissement, au lieu de me rapporter, il va me couler encore plus. Et donc, en plus, vous l'avez noté, c'est qu'on est dans un monde qui va très vite. On a cette crise ukrainienne, mais il n'y a pas que la crise ukrainienne. Il y a la crise Covid, il y a un ensemble en fait d'événements, on n'en parle pas forcément, mais dans le monde, et qui font que tout ça, c'est très incertain, ça bouge très vite. Et donc, il faut prendre une multitude de paramètres. D'où la nécessité d'une planification.
Alors, on va évidemment revenir sur cette planification dans quelques minutes, puis on y reviendra aussi après au téléphone sonne, mais on va d'abord passer à l'actualité de la semaine. Grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin, retour sur la première semaine du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, avec pour commencer la cérémonie d'investiture, ou plutôt de réinvestiture, c'était samedi dernier à l'Élysée.
Le peuple français, ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.
Emmanuel Macron dans une nouvelle version du changement dans la continuité. Dans ces conditions, pas d'euphorie, comme le reconnaît François Bayrou.
Quand c'est une première investiture, il y a cette joie, cette déferlante.
Mais quand on remet le couvert dans les conditions que l'on sait, c'est assez différent.
Et là, l'enchaînement des difficultés... Il est sans précédent.
Contraste saisissant avec la naissance officielle quelques heures plus tard à Aubervilliers de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Jean-Luc Mélenchon n'en revient toujours pas lui-même.
C'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces dès le premier tour sur des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions.
Un exploit, reconnaît le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui n'y est pas pour rien.
On a failli partir, et puis on est resté quand même. Et on va aller arracher la victoire ensemble. Merci à toutes et tous. Et on va gagner, oui, on va gagner.
Gagner les législatives, dit la gauche. De quoi interrompre brusquement les vacances de Marine Le Pen, qui réapparaît le lendemain à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.
La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein, ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde.
Car comme le dit Jordan Bardella.
On peut pas être opposant à Emmanuel Macron quand on a appelé à voter pour lui.
Jean-Luc Mélenchon ou l'art de transformer la défaite en victoire.
Moi j'estime que 7 700 000 voix à l'élection présidentielle, bon, ça fait pas de moi tout à fait un passant dans la rue.
Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, si un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD.
Pardon ?
En ZAD, c'est-à-dire avec les défenseurs des Black Blocs, les défenseurs du Burkini à la piscine.
Ah, le Burkini a remplacé le voile, sans doute une question de saison. Lundi, première visite en Allemagne comme il se doit pour le président réélu, et une question sur le choix du futur ou de la future locataire de Matignon. Avez-vous choisi, monsieur le président ?
Alors, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant.
Encore un peu de patience.
On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre.
En bon ordre, c'est-à-dire après le dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex, car cette fois, c'est enfin la bonne après 2 faux départs.
Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex.
Et pour fêter ça, une dernière annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur le Covid.
À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays.
Eh ben, en voilà une nouvelle.
Plus obligatoire. Mais recommandé.
Décidément, il y a toujours un mais avec le Covid.
C'est un moment purement électorale, à mon avis.
L'épidémiologiste Catherine Hill dans ses œuvres.
Parce que le virus continue à circuler.
En attendant, c'est un soulagement car il fait chaud, très chaud, trop chaud pour un mois de mai.
Je profite du soleil après le sport. Voilà, je viens de déjeuner en terrasse. C'est agréable, je suis contente, ça fait du bien. Mais ça fait peur un peu quand même. Enfin, l'état de la planète, du moins, m'inquiète beaucoup. Ouais.
Et encore merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France avec la géographe Magali Regezazit, spécialiste des risques majeurs et de la résilience des territoires. Magali Regezazit, 1400 scientifiques ont signé une pétition en février dernier pour demander de sortir de l'inaction climatique et pour former les politiques. Vous faites partie de ceux qui ont signé cette pétition, c'est donc avant la présidentielle. Pourquoi demander à la fois de former les politiques qui ne sont pas suffisamment formés à toutes ces questions-là?
On n'a pas demandé de former les politiques. La tribune était un petit peu différente. Il y a eu une autre tribune qui a été faite par d'autres personnes sur effectivement la formation.
Vous, c'était pour sortir de l'inaction.
Cette tribune, en fait, c'était surtout pour dire qu'on a besoin d'interroger les candidats pendant la campagne électorale pour parler de ces questions climatiques. Parce que ces questions climatiques ne doivent plus être cantonnées à la rubrique écologie, même si les journalistes qui sont spécialistes d'écologie font parfaitement leur travail. La question climatique, elle touche le pouvoir d'achat des Français. Elle touche l'éducation. Elle touche la santé. Elle touche les transports. Elle touche la facture énergétique. Elle touche ce que vous avez dans votre assiette. Autrement dit, aujourd'hui, quand on interroge un politique, il y a des questions qu'on devrait poser. On parle beaucoup de la réforme des retraites. Moi, j'aimerais qu'on demande à nos hommes et nos femmes politiques quid de la retraite dans un climat qui change. Et donc, l'idée, c'est bien de se dire, et c'est un peu la logique qui commence quand même à évoluer, c'est de dire qu'il y a derrière le consensus, d'accord, on aime la planète, ok, on est pour la paix dans le monde, ok. Derrière, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire et quels sont les projets politiques, au sens noble du terme, qui sont conflictuels. C'est pas la même chose en fonction du parti, en fonction de vos convictions, et c'est respectable.
Il y a des choix politiques à faire.
Il y a des choix politiques, il va y avoir des arbitrages très lourds. Et donc, on a besoin aussi que les Français puissent décider, parce qu'on a ce pouvoir, je le répète, de leur avenir, en disant où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on met les incitations, etc. Et donc, ce qu'on demandait simplement, c'est que si nous n'interrogeons pas, et si les journalistes n'interrogent pas les candidats pendant la campagne, les candidats ne répondent pas. Et c'est vrai qu'on était un peu frustrés parce que, et on le voit dans le reportage dont vous avez parlé, on voit ces gens qui s'inquiètent. Moi, je suis assez frappée par l'angoisse que je ressens de plus en plus chez mes concitoyens, chez des jeunes, chez mes étudiants, chez... Je suis inquiète en réalité parce que je vois monter cette inquiétude. Des jeunes, normalement, ça rêve à l'avenir, ça rêve pas aux murs qui vont se prendre, quoi. Et donc, on est dans ce monde où on a envie de se dire, mais on a besoin aujourd'hui que chacun fasse son travail. Et quand on nous dit c'est compliqué, c'est complexe, je suis navrée, mais discuter pendant des heures du conflit ukrainien, qui est nécessaire.
C'est compliqué aussi.
De la mondialisation, des problèmes d'énergie, etc., c'est extrêmement compliqué. Les journalistes le font. Et donc, si on veut qu'on retrouve aussi cette confiance dans la presse, notamment les médias vraiment qui sont importants, on doit en parler parce que sinon, on ira sur les réseaux sociaux, on ira sur des sources d'informations alternatives, où là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile parce que la validation du métier de journaliste n'est pas faite. Et donc, pour moi, c'était ça qu'on portait de façon apolitique, je le répète. On n'était pas là pour un candidat. On voulait juste qu'il y ait cette discussion qui, malheureusement, n'a pas eu lieu.
En tout cas, Emmanuel Macron a dit vouloir nommer un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. C'est ce qu'il a dit dans l'entre-deux-tours. C'est plutôt bien sur le...
J'aimerais pas être à la place...
La façon dont c'est affiché.
J'aimerais pas être à la place d'Emmanuel Macron, très sincèrement, parce que les crises qui s'annoncent sont devant nous. Et ça va être extrêmement compliqué, on le sait, hein, je veux dire là on a les trajectoires, toute la question c'est de savoir comment on se prépare, on voit qu'il y a des menaces géopolitiques, il y a un tas de menaces, voilà. Et puis il y a ce climat qui change, dont on ne mesure pas, y compris nous les scientifiques, hein, quand on travaille dedans, on voit bien ce qui peut se passer, mais c'est...
Ça peut être pire encore.
Ça va trop vite.
Ça va trop vite. Alors, en tout cas, Emmanuel Macron a annoncé une planification écologique, on va en parler. On va s'arrêter sur un exemple de planification a priori réussi. C'est la Suède, où s'est rendu Benjamin Ely, là-bas. C'est une réalité depuis des années. L'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2045 à Stockholm. Tout le monde s'y met. N'allez pas croire que c'est si compliqué.
Plastique.
Une poubelle pour le plastique. Cartons. Les cartons, le verre coloré, le verre transparent.
Ici, c'est le papier. Là, on met les piles. Marianne a 72 ans. Elle vit ici depuis 16 ans et elle trie ses déchets patiemment, non sans une pointe d'ironie. On veut sauver le monde. Les Suédois sont de bonnes personnes. On a Greta.
Greta Thunberg.
Non, mais nous sommes quand même assez volontaires en Suède. Alors Marianne joue le jeu, vous l'entendez, mais elle pense aussi à son porte-monnaie. Je n'ai pas de voiture électrique, je ne peux pas me la payer, explique Marianne, mais je dois payer des sommes folles pour l'essence. Tout ça à cause des taxes. La taxe carbone en Suède, elle vient de loin. Elle a été mise en place dès 1991. Aujourd'hui, elle atteint 120 euros la tonne de CO2. C'est l'un des montants les plus élevés au niveau mondial. Nous avons contacté le ministère de l'Environnement qui assure que la Suède a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 35% entre 1990 et 2020.
Il y a une sensibilité à la question environnementale profonde et qui est ancienne, et peut-être un peu plus qu'en France.
Il s'appelle Loïc, il a 46 ans, il est franco-suédois, fonctionnaire en Suède. Il a été conseiller pendant une vingtaine d'années sur les questions d'environnement pour le gouvernement ici. Il rappelle que la planification écologique vue de Suède, c'est avant tout une promesse.
L'objectif est générationnel, qui est de laisser à la génération future un monde où les problèmes environnementaux sont réglés, qui est à l'horizon 2050. Il est après divisé en 16 objectifs environnementaux. Donc il y a de la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la couche d'ozone, qui sont eux-mêmes divisés en objectifs d'étape qui nous permettent de faire un suivi de notre avancée ou pas.
Alors, ça y est, on va descendre les poubelles.
On va descendre les poubelles.
C'est un peu le fil rouge du reportage. On est dehors face à une drôle de machine.
Soupe sug. Soupe, c'est les poubelles. Sug, ça veut dire aspirateur. Le sac a disparu.
Et donc tout ça est recyclé, ça fait du chauffage urbain après.
Il y en a qui vont faire du compost et d'autres qui vont faire du chauffage urbain. C'est du gaz qu'on utilise aussi pour les transports.
Ah, ben voilà, un bus au biogaz qui passe. Et attention au vélo.
Voilà pour ce reportage de Benjamin Illy. Qu'est-ce qu'on dit, Magali Regzazid ? Bravo la Suède, mais on est tous sur le même bateau, donc...
Ah oui, on est tous sur le même bateau et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est global. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a besoin d'une réflexion. Le GIEC nous dit une seule santé humaine, une seule santé écosystémique et une seule santé de la planète avec le climat. Après, effectivement, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit qu'il y a une mobilisation et on voit aussi qu'à un moment, il faut accompagner. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que les passoires thermiques, ça veut dire que dans quelques années, avec cette chaleur qui augmente l'été, le problème, ça va être le confort d'été. Et donc, quand on va régler la rénovation des bâtiments, on va aussi régler du mal logement. Quand on va régler l'accès à la mobilité, ça veut dire qu'on va permettre à des gens d'avoir... de pouvoir se déplacer, peut-être moins, peut-être mieux. Ça veut dire qu'on va améliorer les conditions de travail, le pouvoir d'achat. Donc c'est un peu cette idée-là aussi, c'est-à-dire d'engager ces transformations. Quand je vous disais que c'était une révolution, ça me fait vraiment penser à ce qui est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où en fait on a engagé des transformations de fond de nos sociétés. Il faut quand même imaginer qu'on était dans des situations... Enfin, je veux dire, les gaullistes d'un côté, les communistes, c'était pas non plus les meilleurs amis du monde. Hein. On a eu la sécurité sociale, on a eu les grands plans d'aménagement du territoire national, on a eu l'industrialisation, on a eu les révolution agricole. Alors après, parfois on s'est trompé, effectivement.
Mais on a pris le taureau par les cornes.
Mais on a pris le taureau par les cornes.
Alors vous disiez tout à l'heure qu'effectivement il y a une partie de la jeunesse qui est un peu déprimée de la situation. Je voudrais vous faire écouter, il y a quelques jours, des étudiants d'AgroParisTech à Paris se sont fait entendre lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Leur prise de parole a été postée sur les réseaux sociaux où elle a tourné en boucle. De quelle vie voulons-nous, demandent ces étudiants qui appellent leurs camarades à déserter. Je vous propose d'écouter un extrait de leurs interventions.
Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV ? Mais quelle vie voulons-nous ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite ? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop ? Et puis, un burn-out à 40 ans ? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes, et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant, commencer une formation de paysan boulanger, vous investir dans un atelier vélo autogéré, ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la Terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Voilà ce qu'on dit ces quelques étudiants. Enfin non, ils sont plus étudiants, ils sont diplômés, ils sont ingénieurs. Je précise que la vidéo est sur le site de France Inter. Magali Regzazid, comment vous recevez ce, ce genre de
manières
de discours.
La première, c'est que moi, je suis, je l'ai dit, hein, je suis très inquiète parce que je pense qu'effectivement, il y a un malaise dans cette jeunesse. Moi, j'ai été très choquée par ce qui a été fait, tout ce qui a été dit sur Greta Thunberg. On peut pas d'un côté dire que les gens ne vont pas voter, que les jeunes ne se mobilisent pas, qu'ils sont pas politisés, et puis leur reprocher de le faire. Et donc, à un moment, c'est aussi notre responsabilité d'adulte parce que quand on parle des générations futures, et c'est peut-être le seul point de désaccord avec Stockholm, c'est pas 2050. Les générations futures, elles sont là. Elles se sont pris le Covid dans la figure. Et ça a été horrible pour eux. Et on les a stigmatisés parce qu'ils voulaient sortir. Parce que c'est vrai que des jeunes qui veulent sortir, faire la fête, c'est quand même un truc de dingue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose ça. Après, la manière dont ces jeunes parlent, ça pose la question des décideurs. C'est-à-dire qu'aussi, à un moment, dans un pays, il y a des gens qui décident et qui sont aux manettes. Et donc, ça interroge sur la formation qui est donnée dans les écoles, les évolutions qu'il y a. Mais aussi, à quel moment, moi, citoyenne, je me sens utile. Certains, ça va être dans les mobilisations, dans les engagements. Et l'état aujourd'hui de la démocratie est terrible. Quand on voit la crise syndicale, quand on voit la crise des partis, quand on voit la crise des élections, on ne peut pas régler un problème comme le changement climatique avec une crise démocratique. Et donc, nous devons aussi mettre ces formes d'engagement. On a vu les mobilisations citoyennes. Mais il y a aussi tous ces gens qui œuvrent aujourd'hui à des niveaux décisionnels dans l'entreprise, dans le public, partout. Et on a aussi besoin de ces jeunes formés pour que ça change. Et on le voit sur, par exemple, les forêts, etc. On a vu dans des grandes écoles des évolutions. Moi, je suis intervenue à Polytechnique, j'ai la chance de travailler dans une grande école. L'école normale supérieure. Les élèves se sont mobilisés, ça se mobilise partout. Je pense, si vous voulez, qu'il y a plusieurs jeunesses aussi, qu'il y a celles qui souffrent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de débouchés, parce qu'il y a du chômage, tout ça. Voilà, maintenant, moi, j'entends cette détresse et je trouve qu'elle nous met, nous, j'allais pas dire adultes parce que ce sont des adultes, mais nous, parents, grands-parents, face à nos responsabilités.
Face à nos responsabilités. Une chose est sûre, hein, pendant cette campagne, la gauche a su se faire entendre dans l'entre-deux-tours, en tout cas sur la question écologique. Il y a qu'à voir ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas de l'extrême droite, et c'est ce qui nous amène à la chronique de Vincent Martini.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir
Martini,
à tous.
Qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à Polytechnique aussi. Voilà. Vincent, ce soir vous allez nous parler du Rassemblement National, du silence du RN et de Reconquête dans cette campagne législative, comme si la bataille pour l'extrême droite était perdue d'avance.
En effet Claire, on a l'impression depuis le 24 avril que l'extrême droite a disparu de notre paysage politique. Alors qu'on a eu de cesse de parler de la progression de ses idées durant la campagne présidentielle, alors que le score de Marine Le Pen de 42% au second tour face à Emmanuel Macron a montré qu'elle était encore en mesure de progresser dans les urnes, eh bien depuis, c'est le silence radio. Pendant que les deux coalitions, la NUP pour la gauche et Ensemble pour la majorité présidentielle, avancent leur pion, eh bien le RN et Reconquête ne font même pas semblant d'essayer d'empêcher la défaite qui s'annonce. Reconquête pourrait ainsi n'avoir aucun élu, et Jordan Bardella a affirmé que le RN se contenterait d'un groupe parlementaire, c'est-à-dire 15 députés sur 517, ce qui est certes deux fois plus qu'en 2017, où le parti n'avait envoyé que 8 des siens au Palais Bourbon, mais qui demeure quand même très modeste.
Alors, comment expliquer un tel défaitisme?
Il y a d'abord l'hypothèse de l'abattement d'une famille politique qui a une fois de plus échoué à la présidentielle, après un nouveau débat de l'entre-deux-tours raté pour Marine Le Pen et un front républicain qui a fonctionné malgré ses problèmes. Bref, difficile de mobiliser les militants après un échec plus large qu'annoncé. Mais il y a aussi des éléments plus structurels.
Alors lesquels?
D'abord l'implantation territoriale très limitée du RN. Hormis quelques fiefs comme le Vaucluse, le Gard ou le Pas-de-Calais, l'extrême droite n'a toujours pas réussi à s'enraciner localement, d'où des scores très faibles aux dernières élections départementales, régionales et municipales de 2021. La décision du parti de ne pas réinvestir les mêmes candidats qu'en 2017, voire d'évincer les députés sortants, ne sera certainement pas de nature à changer la donne. D'autant que le RN bute aussi sur une alliance impossible avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. La division du camp nationaliste amoindrit les chances d'obtenir des élus, notamment dans le Sud-Est. Mais un rapprochement avec un mouvement en position aussi radicale que Reconquête réduirait à néant la stratégie de dédiabolisation en faisant tomber les masques sur la véritable nature du RN. Si l'on ajoute à cela l'abstention, à laquelle sont plus sensibles les électeurs populaires de Marine Le Pen, eh bien tous les ingrédients sont réunis pour une lourde défaite, et ce qui explique le peu d'engouement pour la campagne en cours.
Le mode de scrutin n'est-il pas également en cause?
C'est peut-être ça le problème principal en réalité. On sait de longue date que le scrutin législatif uninominal majoritaire à deux tours, c'est-à-dire qu'il faut pour être élu qu'un candidat obtienne 50% des voix plus une dans chaque circonscription, eh bien ce scrutin ne favorise pas les partis minoritaires. voire il bloque l'accès à l'Assemblée nationale pour les partis radicaux qui polarisent l'électorat en favorisant les candidats opposition plus centristes. C'est d'ailleurs une question qui pourrait également se poser pour la NUP si une partie des électeurs de gauche considère la coalition menée par la France insoumise comme un repoussoir. Isolé, divisé, face à un scrutin qui la défavorise, l'extrême droite, qui représente pourtant près de 30% des suffrages exprimés au premier tour avec ses deux candidats, sera probablement quasiment inexistante sur la carte parlementaire. Certains y trouveront des raisons de se réjouir. Mais ce serait ignorer qu'il y a dans cette situation un déni démocratique de nature à augmenter encore la critique anti-parlementaire et la défiance contre un système qui exclut tout un pan de la population de la représentation nationale. Et qu'en cas d'assemblée monocolore, cette colère ne manquera pas de se payer un jour ou l'autre dans les urnes ou ailleurs.
Merci beaucoup Vincent Martini. Magali Regezazid, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, peut-être pas sur l'extrême droite, mais sur le malaise démocratique actuel.
Je pense qu'il y a un réel malaise démocratique et que ça a été démontré hein, quand on regarde les scores. Le deuxième, si on regarde en nombre de voix, effectivement l'extrême droite augmente depuis 20 ans. Par contre, il y a plus de voix sur les blancs, les nuls, les abstentions. Et donc là aussi, on a besoin de trouver des mécanismes sans forcément renverser la table. Mais peut-être s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et donc effectivement, la désertion des urnes est une alerte très forte, parce qu'à la fin, il va bien falloir trouver des mécanismes, pas simplement de consultation. Il va falloir qu'à un moment, des citoyens s'expriment sur les trajectoires, parce que sinon, effectivement, il n'y aura pas d'acceptabilité, comme on le dit aujourd'hui. Et un des sujets, c'est qu'on ne peut pas uniquement gérer les choses par des mouvements qu'on ne sait pas interpréter. Hein. Quand on regarde les gilets jaunes, on a un écart terrible entre les analyses qui en sont faites et ce qu'en disent les sociologues. On avait la même chose sur les banlieues en 2005, hein, c'est-à-dire des écarts d'analyse terribles. Et donc derrière, aujourd'hui, on a vraiment un changement climatique qui risque de fragmenter. Et juste pour conclure, le GIEC, une des limites à l'adaptation que nous pointe le GIEC, c'est la limite sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les impacts seront tels que des communautés entières risquent de s'effondrer et que l'effondrement produira des crises politiques qui là mettront en cause la démocratie. Or, je le répète, il n'y a pas d'autre modèle dans l'histoire que la démocratie pour régler les crises. La dictature et l'écologie, l'environnement, on ne connaît pas de dictature qui réussit à faire une transition écologique. Ça n'existe pas.
Prévenir plutôt que guérir, ça c'est votre credo, Magali Regezazid. J'ai été frappée d'un chiffre en préparant cette émission. Un Français sur quatre vit en zone inondable en France. 17 millions de personnes vivent en zone inondable. Je ne sais pas si on a déjà pris conscience de la situation dans
3 milliards et demi de personnes aujourd'hui dans le monde souffrent du changement climatique déjà, et il y en a en France. On a des taux de mortalité qui vont augmenter, on a des victimes du climat. On vient de démontrer qu'une espèce, ça y est, on l'a démontré, une espèce a disparu à cause du changement climatique. Donc si vous voulez, on est dans des choses qui arrivent très vite. Le GIEC nous dit, à horizon 2100, il pourrait y avoir entre 50 et 75% de la population mondiale exposée à des risques. On a parlé des inondations. Je pense que vos auditeurs connaissent le phénomène de fissure qu'il y a dans leur maison après les sécheresses. Les agriculteurs.
On l'a beaucoup vu cette semaine.
On appelle le retrait gonflement des argiles. On a nos agriculteurs, on a nos industriels, on a nos entrepreneurs, les stations touristiques.
On a même des centrales nucléaires qui se mettent au ralenti là à cause de la sécheresse cette semaine, à cause du débit des fleuves. C'est le cas de la centrale du Blayais en Gironde.
Exactement. Et là, on va voir demain. On a le bac là en ce moment. Ça veut dire des épreuves annulées, ça veut dire... Donc si vous voulez, c'est vraiment toute notre vie quotidienne, et on voit aujourd'hui en Inde, on en parle peu, hein. Ce qui se passe en Inde aujourd'hui est terrible.
Mais 36 degrés la nuit, 45 le jour.
On est sur quasiment des seuils létaux, mais on a eu la même chose au Canada, on est mort de chaud l'été dernier au Canada, en Afrique du Sud,
en Australie.
À Vancouver,
hein, ils ont crevé de chaud, c'est vraiment incroyable.
Les incendies, les cyclones... C'est problématique, c'est vraiment problématique.
Alors on va continuer à parler de tout ça dans quelques minutes.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu va pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir.
Respire, Mickey 3D, une chanson qui a 20 ans déjà. C'était le choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Magali Regezazit, qui est géographe de l'environnement, enseignante, chercheuse à l'École normale supérieure, spécialiste des risques, membre du Haut Conseil pour le climat. On va dire un petit mot de votre histoire, Magali Regezazit. Je crois qu'on peut le dire, vous avez 43 ans.
Oui.
Vous venez de Nice. Vous êtes d'une famille d'origine italienne, comme on dit, c'était qui les arrière-grands-parents?
Les arrière-grands-parents. Je suis un tutti frutti. Je Piémont, Calabre, et puis des vallées niçoises, des vallées de l'arrière-pays niçois.
Vous êtes née dans une famille où il n'y avait pas forcément une passion de la géographie au départ?
Ah non, non, je viens d'une famille, j'ai cette chance en fait incroyable de venir d'une famille où mes parents n'ont pas le bac, on n'a pas fait d'études, mais j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir des parents qui m'ont permis de faire des études. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir des enseignants qui m'ont
repéré par des enseignants, en
ouais,
fait. Hein.
Exactement. Et des parents qui ont accepté, malgré la difficulté que ça pouvait représenter pour eux. Je suis fille unique, hein, donc... de me pousser, de me laisser aller, de faire des études, d'avoir des livres, d'avoir accès aux livres. Et puis, à un moment, de me laisser partir, faire mes études à Paris.
Vous êtes venue à Paris pour les classes prépa,
oui.
Ce qui n'est pas banal quand même.
Ce qui n'est pas banal et c'était compliqué, mais on n'était jamais venu à Paris. Moi, je devais venir à Paris pour mes 18 ans avec mes parents, c'était mon cadeau. Et puis, je suis arrivée un peu plus tôt, j'avais 17 ans et demi. Et j'ai cette chance extraordinaire d'avoir des parents qui m'ont appris ces valeurs, qui m'ont appris ce que c'est de se lever tôt. Moi, j'ai pas eu, enfin, on comptait pas la, enfin voilà, on n'était pas pauvres, mais je fais partie de cette méritocratie républicaine, et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un père, par exemple, qui était féministe avant l'heure, qui m'a poussée, et donc de savoir ce que c'est l'engagement aussi, de savoir ce que c'est se lever tôt, de savoir ce que c'est de se regarder dans une glace. Et ça, je crois que j'ai eu la chance extraordinaire d'abord d'aller arriver à l'ENS où j'ai pu avoir des études payées. Et c'est pas rien, parce que ça m'a permis de faire des études. J'ai passé mon agrégation, ma thèse. Et puis cette fierté immense quand j'ai amené mes parents dans la cour de l'école normale pour leur montrer ce que c'était. La cour où, voilà, c'est un truc un peu inouï. Et de se dire que, oui, cette chance-là de respecter, de savoir d'où on vient, comme tout ce qu'on appelle les transfuges de classe, hein. Et de se dire que moi j'avais cette chance d'avoir les mots, et donc d'être enseignante, c'est aussi transmettre. C'était ma première forme d'engagement, c'était ça. C'était de transmettre, de donner la connaissance et le savoir, parce que ça rend libre.
Et bah, vous continuez à le faire, hein. C'est une évidence, vous le faites notamment ce soir, Magali Regezazit, et de quelle façon? Vous avez fait votre thèse de doctorat sur la crue centennale de la Seine, ça c'est évidemment quelque chose d'essentiel. On en a parlé il y a quelques années, juste pour rappel, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement, mais si jamais on devait revivre ce qui s'est passé en 1910, ou quelque chose d'équivalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région parisienne serait...
Blackout.
paralysé.
C'est une grande panne technologique, entre 30 et 100 milliards, alors on ne sait plus trop. Et puis en gros, vous imaginez les grèves de 95, le confinement, il n'y a pas de mort, heureusement. Mais ça va bien piquer.
Il faudrait évacuer 1 million de personnes, hein, c'est ce que
j'ai
compris.
Dans les pires des scénarios, oui.
Vous travaillez sur les risques naturels, oui. Et c'est ce qui vous a amené à rencontrer des victimes de catastrophes. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant, forcément.
Ça change. J'ai eu la chance de travailler aux Antilles, d'être accueillie de façon extraordinaire. Moi, la métro blanche qui arrivait, reçue par des femmes, par des hommes qui m'ont confié. Et là aussi, ça fait un lien avec mon histoire, c'est-à-dire avoir les mots pour dire, être ce porte-parole. C'est aussi une forme d'engagement, de trahir. Et puis vous sortez pas indemne parce qu'en fait, d'abord vous arrêtez de juger, vous arrêtez de prendre les choses de haut, vous vous rendez compte que c'est dur et que quand on dit « Ah, mais ces gens-là sont idiots, ils vont s'installer en zone à risque », mais...
C'est pas aussi simple que ça.
Et ça vous rappelle aussi que vous avez cette chance incroyable de pouvoir parler à des politiques, quel que soit leur bord, de pouvoir parler à des élus. Et ces témoignages et cette confiance que les gens vous font, c'est un cadeau, mais ça fait que le matin, on en parlait tout à l'heure... Franchement, des fois, c'est désespérant quand on lit les rapports, quand on se dit « mais on va jamais y arriver ». Et puis, vous vous dites « non, j'ai cette responsabilité-là. Je me fiche, en fait, des décorations, des médailles, des machins. C'est pas bon. Si je viens ici ce soir, c'est aussi parce que j'ai envie de transmettre et j'ai envie de dire que c'est possible et qu'il y a des tas de gens dans ce pays qui n'ont pas voix à la parole, qui ne peuvent pas parler. C'est aussi notre responsabilité. Il y a mon engagement. On me dit souvent « mais tu fais pas de politique. » Moi, j'ai pas envie de faire ça. Tout le monde se fiche de pour qui je vote. Par contre, transmettre ses paroles, faire en sorte qu'on puisse comprendre et derrière agir. Je suis un tout petit rouage dans une machine énorme, mais j'en suis...
Pas si petit que ça.
Voilà. Mais je trouve qu'on a une chance incroyable de faire ça.
Et nous, on a la chance de vous avoir pour nous expliquer tout ça. Juste un petit mot, parce que vous m'avez surprise en préparant l'émission, vous m'avez dit, je vais auprès des enfants, parce que vous êtes enseignante comme à l'école normale supérieure, c'est pas rien, même en maternelle.
Ah mais c'est formidable, vous avez déjà... Les enfants en maternelle, c'est quelque chose d'incroyable, parce que d'abord, ils ont cette immédiateté qu'on a perdue, cet émerveillement, et puis alors, ils vous posent des questions qui vous renvoient mais aux incohérences de notre monde. Et je vous assure que ça soit des étudiants, les enfants de maternelle, ils vous ratent pas. Je comprends pas. C'est bizarre quand même. Et ça, c'est génial. Parce que ces yeux qui brillent, quand vous avez ces yeux qui brillent et que vous pouvez leur parler de demain, moi je me dis, on parle pas assez de ces enseignants justement. C'est aussi ces invisibles. C'est eux qui font le pays. Je veux dire, les dirigeants, tout ça. Si on n'avait pas des gens pour nous apprendre à lire, si moi j'avais pas eu ces instituteurs qui m'ont appris à lire, qui m'ont poussé, qui m'ont appris l'histoire, la géographie, je serais pas là. Et donc en fait, c'est comme les infirmières à l'hôpital, c'est comme les gens qui conduisent les bus, etc. C'est comme les journalistes. On leur doit énormément.
En tout cas, les enseignants, effectivement, on leur doit beaucoup.
Beaucoup.
On leur doit beaucoup. Magali Regazazid, vous allez rester avec nous. Hein, on a cette chance. Après le journal de 19h, on va consacrer le téléphone sonne à la planification écologique promise par Emmanuel Macron et vous allez nous expliquer à quoi ça va pouvoir ressembler.